Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Butembo, au Nord Kivu. Bienvenue, voici les titres de votre journal. Les représentants des différentes communautés posent des préalables avant le retrait de la MONUSCO de la province de l'Ituri où la situation reste précaire. Ils l'ont exprimé hier mercredi devant la chef de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta. Au Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme basé à Butembo demande aux autorités judiciaires d'accélérer l'examen des dossiers des détenus venus du territoire de Rutshuru pour la prison de Kakwangura. À travers une lettre ouverte aux autorités compétentes, cette organisation de défense des droits humains rapporte que certains sont décédés en prison. L'invité de ce journal est l'attaché à la section des suivis et évaluations au niveau du PDD-RCS en Ituri. Fidèle Dramani parle des réalisations, stratégies et défis pour la réussite de ces programmes. À présent, les détails en Ituri. Les représentants des différentes communautés posent des préalables avant le retrait de la MONUSCO dans cette province où la situation reste très précaire. Ils demandent au leadership de la mission onusienne d'aider le gouvernement à restaurer l'autorité de l'État dans toutes les entités occupées par les groupes armés et la protection des civils. Ils l'ont exprimé hier mercredi devant la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les détails dans ce reportage de Martial Kizabiamungu.
Au cours de cette rencontre, les représentants des différentes communautés de l'Ituri ont tout d'abord exprimé leur gratitude pour toutes les actions de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils dans les zones où les groupes armés sont très actifs. Elles ont cité notamment des milliers de déplacés qui sont sécurisés par les casques bleus dans les territoires de Djougou. Ces notables estiment que le départ de la MONUSCO dans ces zones en particulier et en Ituri en général doit être conditionné par les retours d'une paix durable et la restauration de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province. L'un d'eux, Maître Célestin Tawara, président de la communauté Balé. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC dit avoir pris bonne note de leurs préoccupations. Bintou Keïta a promis de transmettre leur doléance aux autorités de son retour à Kinshasa. Bougnard, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les représentants d'au moins 4 entités coutumières ont pris l'engagement de s'impliquer dans le processus de paix et stabilité dans leurs entités. Les chefs de chefferie de Batangi et Bamaté au sud de Lubero, celui de Buito en territoire de Rutshuru et celui des groupements Ikobo en territoire de Walikale ont signé cet acte à l'issue de la table ronde des 3 jours qui s'est clôturée hier mercredi à Goma. C'est sur l'initiative du programme PDDRCS avec l'appui de la MONUSCO. Des détails avec Bernard Nyangi.
Cette table ronde sur la paix et la stabilisation de la zone sud de Lubero, Nord Buito et Ikobo entre dans le cadre de l'exécution du projet Mudawamani, ou le temps pour la paix en français, du programme PDDRCS, financé par le Fonds de cohérence pour la stabilisation IK3S MONUSCO. Un projet qui est exécuté par le consortium Entraide protestante suisse ex-EPR, Action solidaire pour la paix ASP et Aide et Action pour la paix AAP. La rencontre visée pendant les 3 jours a évalué les actions du dit projet en exécution dans ces entités depuis juin 2022. Selon le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambouchindi, le fait que cette zone prioritaire traverse des agitations et d'autres dilemmes sécuritaires, il est nécessaire de renforcer une dynamique communautaire, d'où la nécessité de cet acte dans lequel les leaders des communautés, les autorités politico-administratives locales, provinciales et nationales s'engagent à devenir des ambassadeurs de la paix pour l'atteinte des objectifs du projet. La table ronde avait aussi l'objectif de renforcer les structures de transition pour la pérennisation des acquis du projet Mudawamani en ce moment où la MONUSCO est dans une phase progressive allant vers la fin de sa présence en RDC. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Et puis, le Royaume des Pays-Bas décide d'appuyer financièrement la lutte contre les violences basées sur le genre avec une enveloppe de 13 millions de dollars américains. Cela à travers la deuxième phase du projet Stabilité, Genre et Garantie communautaire, dit S3G2. Projet mis en œuvre par CODAID dans les provinces du Nord et du Sud Kivu pour une durée de 4 ans. Le lancement a été donné par la ministre provinciale de la Santé du Sud Kivu hier mercredi à Bukavu. En quoi va consister la seconde phase du projet S3G2? Réponse avec Seydou Ndiaye, son coordonnateur, au micro de Cynthia Bachezina Bizana.
Nous avons la réponse multisectorielle aux violences sexuelles et basée sur les gens. Là, le projet vise la mise en place des centres à guichets uniques que nous appelons les One Stop Center. Ce sont des hôpitaux généraux de référence ou des centres de santé de référence où nous mettons tous les quatre piliers de prise en charge des cas de violences sexuelles basées sur les gens en un seul endroit, à savoir la prise en charge médicale, psychosociale, l'accompagnement juridique ou judiciaire et aussi la réinsertion socio-économique. Pour la réinsertion socio-économique, ça commence au niveau de ce One Stop Center, centre guichet unique, mais ça se termine au niveau de la communauté de la survivance. Ça, c'est le premier axe. Second axe, nous appelons ça les renforcements des systèmes de santé. Et là, nous arrivons à renforcer les capacités des prestataires de santé à ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes.
Au Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme, REDO, une organisation basée à Butembo, demande aux autorités judiciaires d'accélérer l'examen des dossiers des détenus venus du territoire de Rutshuru pour la prison locale de Kakwangura. Dans une lettre ouverte adressée mardi dernier aux autorités compétentes, cette organisation de défense des droits humains rapporte que parmi ces détenus, dont certains sont incarcérés depuis plus ou moins une année, sont déjà décédés en prison. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Tout est parti de l'occupation du territoire de Rutshuru par le M23 l'année dernière. Pour des raisons de sécurité, les autorités avaient décidé de ramener tous les détenus de la prison centrale de Rutshuru à la prison de Kakwangura à Butembo. Dans cette précipitation, quelques 141 prisonniers vont être transférés d'une prison à une autre sans aucun dossier ni pièce de procédure judiciaire. L'un décédera en cours de route et depuis lors, 9 autres ont déjà péri en prison pour cause de maladie. D'après l'ONG REDO, qui rapporte les faits, une quarantaine de ces détenus ont déjà été libérés. Mais il en reste encore plus de 80, dont la plupart seraient illégalement détenus, indique le REDO. Son coordonnateur, Maître Mouindo Assivignoua, demande au chef des parquets militaires et civils et au président des tribunaux militaires des garnisons et des grandes instances de Butembo de tout mettre en œuvre pour examiner de toute urgence les dossiers de ces prisonniers afin qu'ils soient fixés sur leur sort. Contactez le procureur de la République près le parc de grande instance de Butembo, reconnaît le caractère préoccupant de la situation de ces détenus venus de Rutshuru. Valérie Moalulumande indique pour sa part que son cabinet fait le nécessaire en collaboration avec l'administration pénitentiaire pour retrouver les pièces manquantes au dossier avant leur examen proprement dit. Beni Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
À Lubumbashi, le sous-préfet met en garde contre les responsables des écoles pour la réinscription des anciens élèves. Le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1 tape du poing sur la table. Aucune école, tant du secteur privé que du secteur public, n'est autorisée à percevoir les frais d'inscription. Les contrevenants se verront retirer l'agrément. On écoute le prophète Joseph Munkeo au micro de Jean Gandou.
Nous avons eu à faire une note circulaire pour interdire aux écoles privées agréées surtout, qui se sont livrées à percevoir ces frais dits d'inscription. Mais nous leur avons demandé à ceux qui ont eu à les faire de transformer le frais d'inscription en frais Minerval pour le mois de septembre. De par certaines dénonciations que nous avons reçues des parents, il y a une école par exemple où le mois est payé à $50, mais on a demandé le frais d'inscription à $100. Nous avons demandé à cette école-là de prendre ces $100 et de les remettre sur le frais Minerval du mois de septembre et le mois d'octobre. Et donc ces parents-là qui a eu à payer $100 comme frais d'inscription n'aura pas à payer le mois de septembre et le mois d'octobre. Et pour ceux qui ont eu à demander par exemple un seul mois, et vont carrément transformer ces frais au Minerval du mois de septembre. En cas de violation ou de non-respect des instructions, nous avons une seule décision à prendre, c'est le retrait de l'agrément. La loi cadre dit que le retrait de l'agrément occasionne automatiquement la fermeture de l'école.
En bref, c'est ce jeudi que la mesure interdisant la circulation des motocyclistes au centre-ville de Lubumbashi entre en application. D'après l'autorité urbaine, l'objectif est de désengorger le centre-ville et éviter les embouteillages. La plupart des concernés continuent à œuvrer comme par le passé, allant même au-delà des limites décidées par le maire Martin Kazembechoula. Dans la province de Lomami, reprise mardi dernier du trafic ferroviaire entre les villes de Mweneditu et Kananga dans la province du Kasaï central. Ce après un éboulement de terre qui s'est produit il y a 2 semaines sur la voie ferrée entre les gares Kélé et Loubi, au kilomètre 505 et 506 dans le groupement de Bungu, village Mbukula, en territoire de Kamiji. Le premier train New Express Colombe est passé mardi dernier après les travaux de réhabilitation effectués par les techniciens de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le train Colombe, bloqué depuis 2 semaines à Kananga, est passé par le lieu où il y a eu éboulement de terre sans aucun incident. Le coordonnateur d'exploitation de la SNCC Mweneditu affirme que son entreprise a débloqué des moyens conséquents pour la réhabilitation de ce lieu. Par manque d'engins, plusieurs jeunes des localités environnantes ont été recrutés pour remblayer le fossé. Sous l'expertise des techniciens de la SNCC, l'équipe qui était sur le terrain a aussi tracé une déviation sur laquelle une variante a été posée. Avec le passage du premier train New Express Colombe, le Cordex s'est dit confiant des travaux effectués à cet endroit. Il déplore cependant le manque à gagner pour la société pendant plus de 10 jours d'arrêt de trafic ferroviaire. Rappelons que c'est depuis bientôt 2 semaines qu'un éboulement était survenu entre les gares ferroviaires de Loubi et Kélé, suspendant en l'air la voie ferrée. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, les membres de la commission provinciale routière viennent de valider les pistes rurales présélectionnées par les bénéficiaires qui sont les acteurs locaux. C'était hier mercredi lors d'un atelier de validation organisé par l'unité provinciale de coordination du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR. Ces pistes rurales se trouvent dans les bassins de production de Kailo, Pangi, Kasongo et Kabambari. On écoute le coordonnateur national du PADRIR à ce sujet. Mouté Bakalala Joseph Damien est au micro de Florence Kizalunga.
Nous avions tous compris que il n'est pas intéressant de faire les saupoudrages. Donc, pour avoir compris les messages et avoir opéré un choix en proposant une ou deux routes qui sont prioritaires, nous pensons que notre action va suivre et nous aurons finalement des routes de pistes qui seront durablement entretenues et qui pourront rester pour bien des années. Les axes qui ont été retenus, il s'agit de l'axe Kunda-Bikenge de 80 km dans les bassins de production de Kasongo et dans les sous-bassins de Maringa. Comme deuxième axe, c'est l'axe Lusumba-Kama de 77 km dans les bassins de production de Pangi, sous-bassin de Ikama. Le troisième axe, axe Kailo-Elila, 33,8 km dans les bassins de production de Kailo, sous-bassin de Ambwe. Le quatrième axe, c'est Wamaza-Abimba, 35 km dans les bassins de production de Kabambare, sous-bassin de Wamaza. Et enfin, en cinquième position, c'est l'axe Saidi-Kalulu, 34 km dans les bassins de production de Kasongo et sous-bassin de Moulou.
Plusieurs quartiers de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika manquent l'eau de la régie des eaux depuis quelques semaines. Pour le chef de centre de la régie des eaux Kalemi, cette situation est consécutive au vent qui souffle et qui agite le lac Tanganyika. Explication pour les Munanga.
Depuis l'avènement du phénomène dénommé Sabasaba, c'est-à-dire un vent qui souffle et qui agite le lac Tanganyika pendant 7 jours, le chef de centre de la régie des eaux Kalemi explique que son entreprise capte difficilement l'eau du lac. Gilbert Magala précise que cette situation empêche la régie des eaux de desservir convenablement ses abonnés. Conséquence, plusieurs quartiers manquent d'eau potable. Cela favorise la propagation de l'épidémie de choléra, indique le médecin chef des zones de santé de Kalemi. Pour les chefs réseau et distribution de la régie des eaux Kalemi, la desserte en eau s'est faite de manière sectorielle. Trésor Mwamba.
Avec ce que nous connaissons, les Sabasaba, la régie des eaux n'est plus en mesure de donner à la population de l'eau comme il se devait. Donc, on donne l'eau à la population de manière sectorielle. C'est que quand le lac n'est pas agité, on voit quel quartier approvisionné et ainsi de suite.
Signalons qu'une partie des matériels se trouvant à la station de captage et de pompage d'eau de la régie des eaux Kalemi date de l'époque coloniale. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une cinquantaine de personnes ont été interpellées hier mercredi dans tout le Maroc lors d'un vaste coup de filet antiterroriste visant des partisans présumés des groupes djihadistes, ont indiqué les médias locaux citant des sources sécuritaires. Parmi elles, 21 ont été placées en garde à vue sous la supervision du parquet, ont précisé les mêmes sources. Les suspects sont soupçonnés d'avoir fait allégeance aux groupes djihadistes de l'État islamique et d'Al-Qaïda.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'attaché à la section des suivis et évaluations au niveau du PDDRCS en Ituri. Fidèle Dramani parle des réalisations, des stratégies et défis pour la réussite de ces programmes. C'est après l'échange lundi dernier à Bounia entre la chef de la MONUSCO et les responsables du PDDRCS en Ituri. Dans le cadre de l'évaluation de ce processus depuis l'ouverture du centre de démobilisation de Diango à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Bounia, Fidèle Dramani s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur Fidèle Dramani, bonjour.
Bonjour Monsieur Martial.
Quoi retenir de vos échanges avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta?
Oui, au fait, à l'issue de cette rencontre, nous avons eu à présenter justement l'état d'avancement du PDDRCS Ituri. À quel niveau nous sommes, quels sont les défis et également quelles sont les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que la MONUSCO peut nous apporter et collaborer justement avec la MONUSCO ainsi que d'autres partenaires qui interviennent dans le cadre justement de la paix en Ituri.
Aujourd'hui, quel est cet état d'avancement du programme PDDRCS et surtout avec le centre de Diango?
Oui, il y a des avancées. Peut-être nous pouvons dire un peu des avancées timides parce que ce que nous attendions n'est pas ce que nous sommes en train de vivre, mais est-il qu'il y a la volonté, il y a la volonté du chef de l'État, il y a la volonté également des partenaires, mais également il y a la volonté des amis combattants, mais est-il qu'il y a des petits préalables qui sont en train d'être vidés afin que finalement tout soit fait prêt.
Dans vos échanges, vous avez soulevé plusieurs défis, notamment le défi concernant la prise en charge médicale de ces quelques combattants qui sont déjà au niveau du site de Diango. Vous avez parlé aussi des problèmes de sensibilisation de ces groupes armés qui n'arrivent pas à déposer les armes.
En termes de défis, c'est vrai, par rapport au premier, notamment le manque de médicaments, c'est vrai, c'est une vérité, et que nous sommes justement en train de faire aussi les plaidoyers auprès de ces partenaires en vue de nous venir en aide pour justement appuyer ses amis qui se sont déjà rendus. Et par rapport au tiré de filet ficelle, nous allons tout simplement lancer le message de ne pas intoxiquer les groupes armés. Que nous qui sommes dans la ville, qui sommes ailleurs, ne puissions pas donner de mauvais messages aux groupes armés. Par contre, sensibilisons-les afin qu'ils puissent rendre les armes, afin que finalement la paix soit effective dans notre province.
Parmi les grands défis, vous avez aussi parlé de la non-validation du plan d'action opérationnel de la province de l'Ituri par l'équipe de pilotage de ces programmes.
Évidemment, c'est un grand défi. Pourquoi ? Parce que le plan opérationnel provincial, c'est un document qui nous définit toutes les activités en termes planification en termes de stratégie prévue dans ce document. Dès lors que ce document n'est pas encore validé et donc nous sommes en train de patauger. Donc on n'est pas en train vraiment de travailler comme il se devait parce qu'il n'y a pas une ligne directrice, une ligne qui nous oriente parce que tout cela est prévu dans ce document-là. Et c'est cela que nous sommes en train d'attendre et nous croyons que d'ici peu, ça sera fait parce qu'aussi il avait fallu attendre le plan des amis de Nord Kivu qui finalement venait d'être fini. Nous croyons qu'ensemble on va sortir une décision d'ensemble.
L'inaccessibilité de plusieurs zones où les groupes armés sont encore actifs, c'est parmi aussi les problèmes que vous êtes confrontés aujourd'hui. On ne sent pas un engouement de ces combattants venir déposer les armes au site de Diango.
Vous avez raison, vous savez, là où les armes résonnent, il est difficile d'accéder. Et donc, c'est comme ça que nous sommes justement en train d'appeler tous nos frères, parce qu'au finish, ce sont nos frères, de venir rendre les armes. Il y a des projets pour que finalement, après les armes, nous puissions être pris en charge. Il y a des projets d'intérêt communautaire, il y a des projets qui feront en sorte que finalement, après le dépôt des armes, nous puissions être heureux, vivre en paix. Mais également, nous profitons également par dire que la sensibilisation des communautés, elle a déjà commencé et que ça doit continuer avec l'appui des partenaires, ça doit continuer.
Mais au site de Diango, les démobilisés qui y sont hébergés n'ont pas encore réussi la formation professionnelle malgré les filières que chacun a choisies. N'est-ce pas une situation qui décourage aussi d'autres éléments des groupes armés de quitter la brousse?
nous sommes justement en train de dire que la formation n'a pas encore commencé comme il se devait. Parce que les ex-combattants sont déjà dans les sites. Chacun a choisi une des filières dont il a besoin. Mais maintenant, il fallait que ça soit fait vite. Parce qu'ils ont l'envie de rentrer dans leur communauté. Et donc, ces formations tardent à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de difficulté. Les partenaires aussi, nous les appelons à nous venir en aide. Parce que ça rentre dans leur cadre d'appui à la communauté, d'appui aux ex-combattants.
Qu'est-ce que vous attendez de la MONUSCO à ce stade ?
Nous attendons un accompagnement de la MONUSCO. Nous attendons un appui de la MONUSCO pour qu'ensemble, nous puissions chercher la paix. Parce que la MONUSCO actuellement est dans un état de la transition. Mais également, il fallait que la MONUSCO nous renforce encore nos capacités en vie de pouvoir nous laisser sur pied. Parce que sinon, on risque de nous laisser la responsabilité que nous n'aurons peut-être pas la capacité de bien pouvoir l'assumer.
Fidèle Dramani, merci.
C'est moi qui vous remercie, M. Martial.
C'était notre invité, l'attaché à la section de suivi et évaluation du PDDRCS en Ituri. Fidèle Dramani s'entretenait à Bounia avec Martial Kizabiamungu. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Seboudiangwa et coordonné par Jacques-Yves Molima. La technique était assurée par Alain Goy. À leur nom, je vous dis merci pour votre fidélité à Radio Okapi.